Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, les grands débats du matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, vos appels comme tous les matins. 0826-300-300.
Oui, alors on parlera tout à l'heure avec Éric Revel aussi, qui sera avec nous dans Revel en campagne, de cette violence contre les élus. Hein. Et donc hier soir, il y avait une réunion à l'Assemblée nationale, sous la houlette de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a convoqué les chefs de parti pour essayer de réagir en fait à ça, et d'ailleurs ils porteront plainte, ou en tout cas ils se porteront partie civile, hein, c'est ce que nous dira Eric. Il y a aussi toute cette actualité évidemment autour de l'école, l'appel en fait à la grève, le pass vaccinal bien sûr, toujours en débat, cette polémique après les déclarations de Fabien Roussel, on y reviendra peut-être aussi d'un mot dans un instant. Et Alexis Poulain voulait revenir sur les vœux. En ce moment, oui, ce sont les cérémonies de vœux, alors qui sont un peu perturbées, qui ne se déroulent pas comme c'était prévu, forcément, compte tenu du Covid. Elisabeth Lévy nous parlait hier matin des vœux à la presse, qui étaient un petit peu quand même particuliers d'Éric Zemmour, parce qu'il recevait des journalistes pour les sermonner. On va voir ça dans un instant. Et Emmanuel Macron, le chef de l'État aussi, a reçu les journalistes hier. Est-ce qu'il les a sermonnés parce que...
Oui, alors pour Emmanuel Macron, il y a les bons et les mauvais journalistes. Hein. Clairement, il y a eu la remise du rapport Bronner, hein, sur les fake news, rapport qui ne va pas changer grand-chose, qui reprend des préconisations de la loi Avia sur la censure des discours de haine sur les réseaux sociaux. On se rend compte finalement de la dépendance des pouvoirs publics face aux plateformes, hein, des GAFA, Twitter, Facebook, etc. Donc la surveillance des algorithmes, et puis toujours cette obsession de la désinformation de l'étranger dans les élections, avec l'idée du bon et du mauvais journaliste. Et dans le rapport Bronner, le fait de dire qu'on a finalement des mondes qui sont parallèles, ouais. Et c'est difficile de faire république puisque selon comment on s'informe, on n'a pas du tout la même vision du monde, avec les antivax bien sûr en ligne de mire dans ce rapport. Donc c'était un peu ça. Et puis toujours ce rapport étrange face aux journalistes, hein. On sent bien que il y a toujours une persistance historique de la presse de cour, ouais. Et puis il y a aussi une haine. Alors on ne sait pas pourquoi cette profession est en haïe, c'est ce que disait Éric, oui, Zemmour, vous n'êtes pas aimé. Mais Mélenchon aussi, qui a été jugé et condamné parce qu'il avait insulté des journalistes du service public, et mais... à ses voeux, il a dit...
Ah, de Radio France, oui,
oui,
c'est
oui,
vrai.
Il a dit, je ne peux pas vous traiter d'idiot et de ridicule, par contre, je peux vous emmerder, comme le chef de l'État. Ah, oui. Et voilà, il y a toujours ce rapport amour-haine du politique et du journaliste qui est assez particulier de tout temps.
Hein. Elisabeth Lévy.
Enfin, écoutez... Excusez-moi, je vois pas ce que ça, je veux dire, on trouverait ça tout à fait normal de critiquer les profs, les juges, les ceci, les cela. Je ne vois vraiment pas pourquoi les journalistes seraient soustraits à la critique, et d'autant plus qu'à mon avis, ils la méritent. Parce que je trouve quand même que
donc
l'évolution
vous le méritez
du journalisme...
Aussi. Nous le méritons
devenu...
tous.
Non mais l'évolution du journalisme là, non mais écoutez, ouais. Je veux dire, demander aux gens pourquoi ils n'aiment pas les journalistes, parce qu'ils prêchent au lieu d'informer, parce qu'ils veulent, ils se prennent, si vous voulez, ils pensent détenir, c'est un peu la gauche, si vous voulez, c'est le camp du bien, ils pensent qu'ils ont le droit de dire qui est fréquentable et qui ne l'est pas, de quel sujet on a le droit de parler, ouais. Et si ceci ou cela existe, ils sont sur les faits divers, par exemple, le service public, excusez-moi, est quand même pas blanc-bleu, parce qu'en général, ce qui ne les arrange pas ou ce qui ne rentre pas dans leur vision du monde, ils le cachent. Donc moi, je trouve qu'il est tout à fait normal. Les médias, c'est un pouvoir. C'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. Si vous voulez, il est tout à fait normal que ce pouvoir appelle des contre-pouvoirs. Et moi, je dois dire... Et alors, en plus, si vous voulez, depuis des années, le rapport entre les politiques et les journalistes s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'avant, on avait peur que les journalistes soient soumis au pouvoir politique. Aujourd'hui, c'est les politiques qui s'inclinent en permanence devant les médias, donc si vous voulez, parce qu'ils peuvent pas exister.
Ah oui.
Oh bah oui, je trouve, moi, excusez-moi.
Ouais. Ouais,
je veux dire,
pas,
vous verrez jamais, par exemple, moi je me rappelle quand on a fait le dossier France Inter, si vous voulez, les gens, il y a énormément de gens qui en privé critiquent France Inter, mais ils ont tous très peur de vous dire un mot en public parce qu'ils ont peur d'être tricards.
Ouais,
moi je trouve ça,
ouais,
tout à fait, je trouve qu'il y a vraiment des critiques à faire sur le journalisme,
ah oui,
je trouve que la critique des médias...
Mais l'ensemble, hein, bien sûr, oui.
Non,
la critique des médias est une chose très importante. importante et je vous le confirme, les journalistes sont détestés, ils sont pas aimés.
Ça dépend lesquels.
Parce que c'est souvent des porteurs de.
Ce sont souvent. Cher Patrick, oui, non, vous êtes très aimé.
Oui, non, mais c'est parce que souvent aussi la presse, nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles, quoi, plus que de bonnes nouvelles. Il faut pas oublier ça.
Et c'est vrai qu'il y a un côté bien pensant que Elisabeth soulignait, qui est dans le rapport Bronner d'ailleurs, de dire que finalement les journalistes sont là aussi pour poser des lignes rouges dans le cadre du débat public qui devrait être encadré par une autorité morale. Le journalisme, c'est pas une autorité morale. On est là pour essayer d'aller chercher les faits, faire sortir les vérités. Donc il y a pas de morale forcément là-dedans. Donc
il y a quand même autre chose que aborde le rapport Bronner. C'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. C'est que pour débattre, pour avoir un débat public, et là ça va au-delà des journalistes, il faut avoir un langage commun. Et moi je mettrai pas tout, absolument pas. Il y a des gens qui sont anti-vax avec des raisons tout à fait raisonnables, des arguments, bon, on peut les entendre tout à fait. Mais moi j'ai reçu, je peux vous parler des messages que je reçois, ou si vous prenez par exemple aux États-Unis, vous voyez bien qu'il y a aussi, si vous voulez, il y a des gens avec qui on n'a plus de langage commun. Parce que simplement, écoutez, ce qu'on nous a raconté, moi j'ai quand même des gens qui m'écrivent, je vous dis que le vaccin fait ceci ou cela, que on essaye, rappelez-vous l'histoire de, on essaie de nous injecter des puces, rappelez-vous, il y a des gens qui croient cela, donc il y a quand même un problème aussi, si vous voulez, qui n'est pas, je ne dirais pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises idées, qu'il faut, que les journalistes doivent en être les garants, et d'ailleurs c'est pas là, moi je trouve que ça concerne pas au premier chef les journalistes, il y a un problème du monde de la raison. Je veux dire, est-ce que pour avoir un débat, même pour s'engueuler, il faut quand même être d'accord à peu près sur le constat, si vous voulez. Donc ça devient très compliqué.
Oui, c'est ce qui ressort du rapport.
Ouais. Allez, un dernier mot avec au 0826 300 300, Fred du Gard, qui est avec nous. Oui. Bonjour Fred. Oui.
Bonjour Fred.
Oui. Un grand bonjour à Alexis Poulenc, qui s'admire beaucoup par ses prises de position, qui relève le débat. Et donc je voulais parler.
Et un bonjour aussi à Elisabeth Lévy, quand même.
Ouais, mais Elisabeth Lévy, j'ai moins de respect pour elle par rapport au début de la pandémie, qui disait qu'il fallait attraper les personnes et les vacciner de force. J'ai un peu de mal.
Vous m'avez entendu dire ça. Écoutez, Fred, excusez-moi, mais là, ça commence mal parce que je n'ai jamais dit cela.
Ah bon ?
J'ai jamais dit qu'il fallait attraper les gens dans la rue et les vacciner de force.
Pour le protocole sanitaire des enfants à l'école, moi j'ai deux enfants scolarisés, un qui est obligé de rester 7 jours à la maison parce qu'il n'est pas vacciné. Ouais. Et du coup, il doit montrer 7 jours d'enfermement et un test négatif. Là, ça commence à devenir du n'importe quoi. Donc, je soutiens la grève, mais peut-être pas pour les mêmes raisons de masques et tout comme ça qu'ils ont besoin de. Mais honnêtement, ça commence à devenir très compliqué.
Ouais, c'est vrai.
Dans cette société de complète, parce qu'on a des politiques qui sont complètement malades et qu'on va pas leur trouver des excuses parce qu'ils sont complètement fous avec les propos de Macron et tout le reste et leur protocole de débile. Aujourd'hui, le monsieur vaccin, en fait, en Angleterre, a dit qu'il fallait qu'on arrête la vaccination. Donc là, à un moment donné, il faut peut-être se poser, réfléchir. Et parler avec des vrais scientifiques, pas des scientifiques qui sont corrompus et qui ont des conflits d'intérêts partout. Et les journalistes, aujourd'hui, si on n'a plus ce respect que l'on avait auparavant, les journalistes, c'est que vous ne posez même plus les bonnes questions. En fait, vous êtes payé par des milliardaires, donc forcément, dès que vous allez contre la doxa, ambiante, vous êtes censuré, vous êtes
tiré. Non, on n'est pas à ce point-là, mais bon. Ouais.
Ah mais non, mais vous êtes quand même limité, je suis désolé pour vous parce que malheureusement j'ai beaucoup de soutien, il faudrait que la parole se libère parce que les journalistes vous êtes bridés et c'est juste plus possible aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui le peuple en a marre et aujourd'hui on en arrive à des aberrations de violence contre les élus.
Je ne me sens pas bridé hein, Fred, j'essaie de poser
restez quand même assez, oui je sais bien.
Non mais après, on pose toutes les questions. Alors il y en a qui d'un côté peuvent en énerver en fait certains, de l'autre aussi. Après, moi je suis pas là en fait pour justement dire il faut penser comme ci ou comme ça. Hein, et donc c'est la raison pour laquelle on donne la parole en fait à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas partout quoi. Hein,
Ah ben si vous allez sur vos confrères des médias en ligne en 24 heures là, ben, je vous garantis que ben oui effectivement Bernard Arnault tout ce qui engraine cette société en fait, eh ben, il est bride bien. Et moi, j'appelle ça des prostituées.
Non, mais c'est sûr que sur l'actionnariat des médias, il y a un souci. Mais d'ailleurs, les propriétaires de médias vont être auditionnés par le Sénat à la fin du mois de janvier, là, dans une semaine. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils ont à dire sur la pluralité. Et c'est vrai qu'après, parfois, on a l'impression que le débat donne la parole plutôt à certains camps que d'autres, ce qui énerve. Mais globalement, oui, enfin, ici, chez Sud ou ailleurs où je peux officier, on a une liberté de parole totale. Et heureusement. Ouais. Et après, il y a de l'autocensure. Le Cadre Quotidien, par exemple, qui a censuré un reportage ou qui n'a pas voulu en parler sur la vente d'armes en France, à l'Arabie Saoudite, par exemple, parce que c'était diplomatiquement compliqué à défendre. Donc il faut aussi, parfois, quand on fait du journalisme d'enquête, avoir du courage, parce que aller contre les intérêts du pouvoir, ça peut poser des problèmes. Il y en a un qui est en prison depuis longtemps, c'est Julian Assange, par exemple.
Ouais. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Fred Dugard, donc Alexis Poulain. On va continuer dans un instant. On parlera aussi de là-bas. On va un petit peu dans ce registre, hein, sur la violence contre les élus. Parfois, ça va quand même un peu loin, un peu trop loin, beaucoup trop loin.
Restez avec nous. Il est 8h59.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, dans une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des obsessions identitaires? On en parlera, bien sûr, 0826-300-300 si vous voulez en parler. Et puis les grands débats continuent avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Vous pouvez aussi, sur des sujets qui vous intéressent, en parler. Mais tout de suite, c'est
Rebelle
en campagne. À tout de suite.
Sud Radio présidentielle 2022.
Revel en campagne, bonjour Éric Revel.
Bonjour Patrick, bonjour
Alors,
Cécile.
Alors, les plaintes d'élus se multiplient, les agressions sont légion, des centaines de plaintes déposées. Le constat est des plus inquiétants. Il y avait une réunion d'ailleurs d'urgence hier à l'Assemblée nationale.
Oui, je vais vous parler de la réunion tout à l'heure, mais notre société, évidemment, elle est traversée par la violence. Les maires, les députés sont victimes d'agressions. Vous vous souvenez sans doute en 2019, hein, Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, dans le Var, qu'il avait payé de sa vie. Plus près de nous, Stéphane Clairaut, le député de La République En Marche, qui a été visé par des projectiles. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, 300 plaintes ont été déposées par des élus de juillet 2021 à ce mois de janvier. 300 plaintes pour menaces de mort, vous entendez bien Patrick, ont été déposées, avec seulement, pour l'instant, a dit Gérald Darmanin hier, 15 interpellations. Alors le phénomène, évidemment, est à l'image de notre société, malade de sa violence, une société marquée aussi par l'effondrement de l'autorité républicaine et du respect de cette autorité.
Oui, la classe politique à l'Assemblée nationale, les ministères se mobilisent aussi, sur le terrain d'ailleurs aussi des élus. Beaucoup de déclarations quand même.
Il y a beaucoup de déclarations, il y en a eu une importante quand même de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui veut que l'Assemblée se porte partie civile pour accélérer la procédure lorsque des députés sont agressés. Mais vous avez raison, on parle beaucoup. Alors Richard Ferrand, les présidents de groupe sont montés au créneau, ils se sont drapés dans l'étoffe bien pensante d'un verbiage qui consiste à dire que, évidemment, s'attaquer aux élus de la République, c'est s'attaquer à la démocratie. Mais ça ne suffit plus. La violence en France est quand même telle que, évidemment, la réponse judiciaire ne semble plus suffisamment adaptée. Imaginez qu'on trouve des subterfuges, Patrick. Un observatoire des agressions contre les élus a été créé. En 2020, 233 maires, là je ne parle plus de députés, c'est encore autre chose, 233 maires dans notre pays ont été agressés. C'est une forte hausse par rapport à 2019. Et d'ailleurs, là aussi, l'AMF, l'Association des maires de France, veut pouvoir se porter partie civile.
Oui, quels sont les motifs principaux de ces agressions dont sont victimes les élus?
Alors, il y en a pas mal. Il y a les élus sont victimes d'agressions du quotidien, dans l'exercice du mandat, des voyous, des paumés. Et puis, la mise en place du pass sanitaire. Et puis bientôt du pass vaccinal expliquerait en partie cette funeste montée de la violence. Mais, et c'est important quand même, Gérald Darmanin, je l'ai lu hier dans Le Monde, admet aussi que ces menaces sont parfois portées au nom de l'islam radical. Le ministre de l'Intérieur doit aux citoyens, me semble-t-il, une totale transparence. Il doit rendre publique l'origine exacte de ces agressions envers les élus de la République. Gérald Darmanin, vous disiez Patrick, a rencontré hier Éric Dupond-Moretti. Alors gageons que le garde des Sceaux n'aura pas expliqué sur un ton docte et assuré que nos élus vivaient seulement dans un sentiment d'insécurité.
Merci Éric. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, et puis vous peut-être au 0826-300-300. Comment vous expliquez quand même cette violence à l'encontre des élus sur le terrain ?
Bah, c'est ce qu'on disait un peu. Enfin, il y a les journalistes qui sont pas aimés, les élus aussi. Oui. Il y a aussi, je pense, le fait qu'on a un problème de représentativité en France. Si on avait une Assemblée nationale plus représentative, on n'aurait peut-être pas cette idée ou ce sentiment de sécession d'une caste, hein, les élus, d'une élite autoproclamée et des gens qui se disent je ne comprends pas les lois qu'ils font, je ne comprends pas comment ça se passe, avec en plus des lois qui sont violentes. Hein. Le problème, c'est que vous avez un président qui insulte les Français, qui les emmerde. Vous avez des élus aussi qui peuvent le faire. Et des lois qui emmerdent aussi les Français. Et donc, il y a...
Enfin, les gilets jaunes, c'était déjà ça. Les lois, c'est pas forcément...
Excusez-moi, mais quand même... là.
Oui, Elisabeth, Elisabeth.
Encore une... Excusez-moi, Alexis, mais là, vous charriez un peu. Parce que la première chose que vous dites, c'est oui, l'Assemblée n'est pas représentative. En gros, on comprend finalement qu'il se fasse agresser. Non, mais...
Non, j'essaye d'expliquer la racine.
Poursuivez. Je vais au bout de mon raisonnement. Donc, je trouve votre réaction vraiment choquante. Parce que, si vous voulez, en fait, il y a quand même une baisse de l'esprit pluraliste dans ce pays. Mmh. Voilà. Et qui est à tous les niveaux, hein, dans le gouvernement, chez ces gens qui font ça, dans la population. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il dit « Ah ben, je vous respecte pas !» Ben, excusez-moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire la non-acceptation
l'idée
que les autres peuvent pas avoir des idées différentes
c'est bien
des
le problème.
Vous, que vous le vouliez ou mais pas. Non. Ces gens ont été élus légitimement.
Non.
Et mettre en cause tout le temps la démocratie représentative, si vous voulez, c'est en gros saper vraiment les fondements de notre système politique, et c'est démagogique parce que c'est en gros faire croire que tout le monde peut gouverner, que tout se vaut. Non. Et bien
non.
Après, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
D'Alexis.
Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous lui tapez pas dessus.
Allez, réponse d'Alexis à Elisabeth Lévy. Vous pouvez réagir au 0826-300-300.
Je condamne toutes les violences, je l'ai toujours fait. Hein, ouais. Et c'est bien pour ça que je me permets d'avoir cette parole-là. Parce que justement, la violence, quand elle est symbolique, on a tendance à l'oublier. Et puis, l'insulte d'un
c'est
président de la République, c'est inacceptable. Enfin, ces mots, j'emmerde les non-vaccinés, c'est inacceptable de la part d'Emmanuel Macron, qui est président de la République. Derrière, vous avez quoi? Vous avez les chiens de la Macronie lâchés pour dire, il a raison, il y aura du sang sur les murs. C'était les mots d'un des responsables de la République en marche. Enfin, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut du respect des deux côtés. Non, mais on ne peut pas demander d'un côté au citoyen lambda de fermer sa gueule et de respecter l'élu qui lui marche sur la tronche à longueur de temps avec des lois qui l'emmerdent et des insultes. Il faut du respect. Le problème, c'est le manque de respect. Et le fait aussi qu'il y a un sentiment d'impunité de certains. Parce que, je suis désolé, les affaires ont fait un mal fou aussi à la profession politique, qui n'est pas une profession, puisqu'effectivement, vous êtes élu, vous avez un mandat. Mais si la démocratie était un peu moins défaillante en France, vous auriez des mandats révocatoires, vous auriez une façon aussi de contrôler le travail des élus. Là, vous avez une élection présidentielle tous les 5 ans, avec une fois élu, un président qui fait à peu près ce qu'il veut.
Après, il y a des élections locales. Il y a des élections locales et intermédiaires,
et
quand même. Elisabeth.
Non, mais moi je suis d'abord, excusez-moi, quels que soient les propos d'Emmanuel Macron, mettre sur le ça c'est le grand truc des insoumis aussi. Vous parlez de violence, ils vous disent ah bah oui, la violence symbolique. Bah non, la violence symbolique et la violence, c'est pas pareil. Si vous voulez, excusez-moi.
Le LBD, les gens qui ont perdu des yeux lors des manifestations des Gilets jaunes, c'était pas symbolique.
Ça c'est pas de la violence symbolique déjà, mais pour que vous mélangez tout.
Vous êtes en train de prendre le
discours des Gilets jaunes, qu'ils ont raison, parce que la base c'est merveilleux, elle a toujours raison. Moi, je suis désolé. On est dans un pays, et puis, excusez-moi, l'État qui leur marche dessus, je veux dire, je vous rappelle que c'est un pays où on a payé absolument tout le monde pendant les mois de confinement, là, tout le monde trouvait que l'État, c'était merveilleux. Donc, si vous voulez, l'idée de... Moi, je trouve que tous ces gens sont tout à fait contestables, je trouve la déclaration d'Emmanuel Macron tout à fait évidemment contestable, mais les violences contre les élus, elles n'ont pas commencé à ce moment-là. Et, vous m'expliquez, si vous voulez, cette histoire de respect, c'est extraordinaire. La première chose qu'a dit le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure, c'est « Ah, Elisabeth Lévy, je suis pas d'accord avec elle, je ne la respecte pas. » Donc, excusez-moi, opposer d'un côté un pauvre peuple victime à, je veux dire, merveilleux, si vous voulez, paré de toutes les vertus à des salauds de politique, moi, je vais vous dire un truc. Je ne ferai pas de politique même... Non, mais franchement, pour faire de la politique aujourd'hui, il faut être maso. Ouais. Je veux dire, c'est pas l'idée que, oui, s'en mettre plein les poches, etc. C'est, je veux dire, absolument pas ça. Donc, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, si vous voulez, dans le fait d'encourager ça, quoi.
J'encourage pas ça puisque je condamne les violences. Par contre, il faut à un moment essayer de comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi la société est aussi fracturée, pourquoi, parce qu'on ne s'écoute plus. C'est ce que vous dites. Le fait en réalité, l'idée de la démocratie, c'est le consensus, c'est d'arriver à parler, de ne pas être d'accord, et à la fin d'être d'accord quand même parce qu'on se rend compte qu'il faut se rejoindre quelque part. Là, avec, et je pense que les réseaux sociaux jouent leur rôle dans cette radicalisation du discours et des actes. Et c'est dangereux, effectivement. Mais il faut retrouver ce sens du dialogue. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on essaie de faire en tant que journaliste. Maintenant, je trouve qu'il y a des élus qui ont perdu ce sens du dialogue, particulièrement la majorité de La République En Marche, qui a toujours eu un ton méprisant, en disant « nous, on a raison, vous comprenez rien », ou « c'est Gaulois réfractaire », enfin, toutes ces petites phrases, elles sont pas anodines. Et derrière, c'est une façon aussi d'envisager la politique qui a quitté aussi les rives du consensus pour aller vers le 49-3, le décret, l'état d'urgence permanent. Voilà, c'est ça le problème. Les racines du mal.
Elisabeth.
Vous avez raison sur un point. C'est par exemple, et Marcel Gaucher le montre très bien, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un pouvoir, si vous voulez, à une espèce d'élite de surdiplômés qui a tendance, effectivement, à prendre. Apprendre les autres pour des ploucs. Ça, c'est vrai, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de... on est les sachants. Mais juste un mot, je ne comprends toujours pas pourquoi Gaulois réfractaire, ce serait une insulte. Moi, Gaulois réfractaire, pour moi, c'est un compliment. Mais franchement, je vous le dis, franchement, j'arrive pas à comprendre cette obsession sur cette phrase. Moi, quand on me dit « vous êtes rebelle », je trouve ça très bien. C'est plutôt un compliment, c'est pas une insulte. Je veux dire, c'est ce que nous sommes, c'est Astérix. Je vois vraiment pas où est le problème. Mais vous avez raison, si vous voulez, on a affaire à des gens qui disent nous on sait et vous, vous ne savez pas. Mais néanmoins, si vous voulez, l'idée, et c'était une idée que moi j'ai beaucoup discuté, je me suis beaucoup disputé avec certains gilets jaunes là-dessus, l'idée, si vous voulez, que tout le monde est capable de gouverner et que X, Y ou Z, et que moi je suis aussi capable de gouverner que n'importe quel ministre qui connaît bien son administration, je pense c'est une idée fausse.
Ouais. Allez, dans un instant, on va changer un peu de sujet, mais on sera un peu dans le droit fil de ce que l'on a dit, hein, c'est-à-dire sur le débat dans notre société autour des obsessions identitaires. De quoi parle-t-on quand on parle d'identité en France? Pourquoi on en parle? On va voir ça avec quelqu'un qui lui, très clairement, prend position dans un des livres qu'il vient de rédiger, Régis Mérand. Il sera avec nous et vous pouvez appeler et réagir aux 0826 300 300.
On vous attend au standard, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Existe-t-il des obsessions identitaires? Et ben pour en parler ce matin, Régis Mérand est avec nous. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, coordinateur scientifique de la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme et auteur de Obsessions identitaires aux éditions textuelles.
Oui, alors déjà, peut-être, Régis Mérand, il faut revenir sur ce qu'est un peu ce concept d'identité, hein, que vous définissez d'ailleurs dans votre livre, avant d'aller en fait beaucoup plus loin, hein, sur ces obsessions identitaires dans nos sociétés.
Oui, l'identité, en fait, ça concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde a une identité qui est multiple, c'est-à-dire qu'on a des appartenances diverses qui sont liées à notre histoire familiale, à notre appartenance nationale, au fait, on a aussi des appartenances internationales, on a toujours plus ou moins des gens issus de l'immigration qui sont inscrits dans votre histoire familiale. Et donc, c'est quelque chose de mouvant, de complexe, qui... Puis vous avez, je sais pas moi, si vous faites du sport, si vous avez différentes attaches culturelles, régionales, voilà, vous avez plusieurs dimensions dans l'appartenance identitaire, disons. Mais, disons, ce dont je parle dans ce livre, c'est que l'identité, en fait, ça peut devenir parfois une question ou un problème, même une tension, quoi, dans certains cas.
Sur des sujets qui s'opposent.
Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes issu de l'immigration postcoloniale et que vous subissez des discriminations, vous serez tiraillé entre une appartenance liée à cette histoire coloniale et l'appartenance nationale. Donc ça fait une tension, et c'est là que la question de l'identité va se poser.
Ouais. Alors et là vous parlez d'une identité fermée notamment, quoi. Hein, dans un cas, il y a une identité fermée, une identité ouverte, émancipatrice. Hein,
c'est-à-dire que évidemment, c'est tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais disons qu'il y a plusieurs façons de défendre, d'affirmer son identité. Soit vous l'affirmez de façon ouverte, c'est-à-dire dans un dialogue avec les autres, en fait. et donc dans une acceptation de la différence.
Et du débat.
Et du débat, et dans une dimension, mettons, universaliste. Ou alors, au contraire, vous êtes dans une identité fermée, et dans ce cas-là, vous voyez les autres comme des ennemis. Et ça, voilà, ça existe aussi. Et le problème, c'est que c'est cette identité fermée qu'on voit de plus en plus dans les médias, dans la politique. Et donc, moi, je trouve ça inquiétant.
Ce qui était l'inverse, en fait, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, quoi, non ?
Oui, absolument.
Il y avait une ouverture, en fait, totale. Et peut-être que, justement, ça a fragilisé, hein, vous le dites aussi, certaines catégories de population, quoi, qui sont senties elles-mêmes menacées, finalement, en quelque sorte, quoi.
C'est-à-dire que bon, les discriminations existaient déjà et le racisme existait évidemment déjà il y a 40 ans.
Mais est-ce que c'était pas plus des identités de classe plutôt que d'identité de civilisation ?
Disons que c'était la dimension de classe qui était plus mise en avant parce que au XXe siècle, c'était on était dans une vision comme ça du conflit qui était tenu par porté par des syndicats par exemple, beaucoup qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui c'est les gilets jaunes, c'est des choses qui sont par exemple pour ce qui est du conflit, on est beaucoup moins dans le conflit institutionnalisé, c'est-à-dire inscrit dans des syndicats, dans la politique, etc. Donc ça a évolué, et en même temps, effectivement, la question des identités apparaît alors qu'elle n'existait pas en France, alors que, par exemple, aux États-Unis, elle a existé tout au long du XXe siècle.
Oui, parce qu'il y a eu une autre construction, en fait, aussi, de l'histoire, quoi.
Oui, oui.
Bien sûr.
Ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire que, bon, les États-Unis, il y a eu une ségrégation raciale très, très forte, il y a eu des lois très discriminantes, très racistes, qui ont duré jusqu'à l'abrogation de ces lois dans les années 60, mais le racisme a perduré de manière différente. En France, on n'a pas la même histoire, on a une histoire liée à l'empire colonial, en fait, qui a laissé des traces, malgré tout, mais effectivement, on ne peut pas tout à fait comparer au cas américain. Malgré tout, il y a des blessures, il y a des choses qui ont trait, justement, à cette question d'identité, qui fait que ça émerge aujourd'hui,
mais
en fait.
L'identité, est-ce qu'elle elle doit être liée aussi à une nation ? Parce que, évidemment, c'est ce qui est souvent mis en évidence, quoi. D'ailleurs, Jean Daniel, par exemple, dans son livre posthume, oui. En fait, où il dit « Il faut réconcilier les Français », le livre posthume, qui est assez formidable, hein, parce qu'il balaye un siècle, dit justement que, quand même, ce qui fait bloc dans un pays, ça doit être une nation. Et derrière, c'est l'identité, non ?
Alors, ça, c'est le problème, c'est qu'il y a aussi une dimension politique et même mythologique, en fait, dans l'identité. C'est-à-dire que pour ce qui fait bloc dans une nation, vous n'êtes pas obligé pour autant de tomber dans un mythe identitaire qui soit fermé, en fait. Vous pouvez avoir une conception de l'appartenance nationale sans pour autant monter les citoyens les uns comme les autres, contre les autres. Et le problème, c'est que les mythes identitaires nationaux, souvent, les historiens le disent d'ailleurs, ils risquent souvent de déraper dans une vision comme ça, très conflictuelle, en fait, avec des ennemis, avec des gens qu'il faut détester.
On s'identifie parfois à la nationalité, à son statut social, comme le disait Cécile tout à l'heure, à sa couleur de peau, sa façon aussi de vivre. On en vient même, vous avez entendu depuis 2-3 jours dans l'actualité, ces déclarations de Fabien Roussel, qui se dit attaché à la gastronomie française. Alors il a parlé du vin, il a parlé de la viande, il a parlé du fromage, et alors là, il y a eu un déferlement, il y a eu des soutiens d'un côté, puis des critiques de l'autre, et c'est lié finalement à une forme d'identité, cela, non ?
C'est-à-dire que... Bon, moi, je pense aussi...
Est-ce qu'il prône une identité derrière ça, à travers cette déclaration ?
Oui, quelque part, c'est ce qui est problématique, à mon avis. C'est-à-dire que quand il dit, bon, rien ne vaut... Enfin, je ne sais plus la phrase, rien ne vaut un bon steak, il pense à un type de, entre guillemets, d'identité particulier, mais enfin, tous les Français n'ont pas le même type d'alimentation, on le sait bien.
Sandrine Rousseau a répliqué en disant que c'est le couscous qui est le plat préféré des Français.
Par exemple, on pourrait dire ça. Donc c'est un peu provocateur de sa part. Mais je pense aussi qu'on se formalise quand même beaucoup trop sur des petites phrases comme ça, mais c'est le jeu de la politique. On va piocher comme ça une phrase. c'est effectivement, c'est pas très. Ça me paraît assez fermé, justement, ouais, comme définition d'identité, mais bon, on va pas en faire un fromage.
Allez, pas en faire un fromage. Bah, c'est bonne réplique. On va poursuivre avec vous. Obsession identitaire. Quelles sont les obsessions donc identitaires au sein de la société française aujourd'hui? On en parle beaucoup parce que c'est vrai dans les débats et il y a une tendance à aller beaucoup plus sur des idées de droite et d'extrême droite, bien sûr, mais ça rejoint, c'est rejoint de l'autre côté par d'autres extrêmes. Vous voulez réagir? Régis Mérand est avec nous pendant encore quelques minutes sur Sud Radio.
Il est 9h28.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h30, la suite des grands débats avec les obsessions identitaires qui agitent notre société. Régis Mérand est avec nous, avec ce livre « Obsessions identitaires » aux éditions textuelles. Moi, j'avais une question à vous poser. Parmi tous ces groupuscules aujourd'hui que l'on voit, en tout cas, ces communautés, les féministes, les LGBT, enfin j'en passe et des meilleurs, comment avoir une identité universelle? Est-ce que c'est vraiment possible?
Moi, je pense, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que les médias qui, trop souvent, se fonctionnent sur la logique du buzz et du clash, vont identifier des petits éléments qui sont les plus, justement, dans une dimension d'identité fermée, donc les plus conflictuels, mais ça laisse de côté, en fait, toute une partie de gens qui sont, qui, tout en défendant des droits particuliers, les droits des femmes, les droits des homos, les droits des minorités, sont tout à fait compatibles avec l'universalisme. Sauf que, évidemment, très souvent, on va voir quelques personnes comme ça qui sont très conflictuelles et qui, en fait, peuvent tomber dans des formes de violence ou de haine.
Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont souvent refermés sur eux-mêmes?
Oui, mais moi je pense aussi que on a tendance à les diaboliser, en fait. Et donc il y a c'est aussi le jeu médiatique qui a tendance à construire comme ça des clashs et des affrontements. Et je pense qu'il faut, évidemment, il faut un débat contradictoire, ouais. Ça c'est tout à fait souhaitable, mais il faut pas un débat haineux, il faut pas d'affrontements violents, quoi. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va opposer, très, très souvent, on va avoir soit un discours très identitaire, très, très, très à droite, et, ou alors des petits, des gens issus de la gauche, mais,
Oui, issus de la gauche, oui, bien sûr, il y en a certains. Par exemple, on sait, il y en a beaucoup à droite qui se sont inspirés de travaux de gens de la gauche. Christophe Julie, par exemple, géographe, qui vient de la gauche. Michel Onfray, c'est un peu la même chose, quoi.
Ah oui, absolument, on peut dire ça. Christophe Guillou, moi, ce que je lui reproche, c'est de simplifier énormément sa vision de la France et de la France périphérique. Tous les géographes spécialistes l'ont critiqué en disant que ça tenait pas la route parce que les banlieues sont très variées selon selon l'endroit, en fait le périphérique c'est pas unifié. Et le problème, c'est qu'il va juste...
Il y a des îles un petit peu aussi. Un peu, ça c'est plus ce qu'a écrit Jérôme Fourquet, en fait, dans son
livre.
Voilà,
par exemple. Effectivement, Guillou va influencer autant séduire autant la droite que l'extrême droite que la gauche. Michel Onfray, alors lui, il est effectivement venu au départ, dit-il, de la pensée anarchiste, mais en fait de plus en plus proche de l'extrême droite.
Ah ben non, mais lui, il dit, moi je suis encore résolument de gauche.
Oui, comment il peut le dire.
Ouais, non, mais on peut pas être
d'accord avec lui aussi.
Bah oui, enfin c'est difficile d'être dans sa tête quand même, quoi, même si on analyse ses discours. Quoi.
Absolument, non, mais il a le droit de penser ce qu'il veut, mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec lui, et parce que justement, il est dans une vision identitaire fermée, en gros, ce sont des gens qui vont prendre, je caricature, qui vont prendre la défense des petits blancs. Mais enfin, quand vous commencez à dire il faut défendre les petits blancs, vous êtes justement dans cette vision fermée qui oppose alors les blancs aux noirs, aux arabes. Pour tout le monde vive ensemble. Quoi.
Oui, c'est vrai, Régis, mais ça c'est difficile, le fameux vivre ensemble. Quoi. C'est ce qu'on apprend en fait dans notre société. C'est pour ça qu'il y a probablement ces tensions identitaires dans notre société, comme dans d'autres d'ailleurs. Hein.
Absolument, mais il y en a toujours, effectivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est instrumentalisé par les politiques et avec, cette évolution à la fois des médias qui courent après le buzz, c'est un truc systémique en fait. Hein. C'est pas... j'accuse pas tel ou tel journaliste.
Oui, et sortir la petite phrase qui fera que.
Voilà, et parce que, en fait, les médias sont aussi concurrencés par Internet, et Internet, les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu d'affrontement.
Ouais, c'est encore pire.
Mais c'est
Internet.
Encore pire, absolument.
Oui. Mais est-ce que l'éducation doit jouer un rôle très important? Est-ce que l'identité, justement, ne se joue pas déjà à la maison, voilà, d'une ouverture?
Bah, bien sûr, c'est à la fois à la maison et, comme vous dites, à l'école. Mmh. Je pense que l'école qui est maltraitée, à mon avis, en ce moment, par notamment le ministre actuel, on voit comment les profs ne sont pas contents. Je pense qu'il y a une raison, c'est on manque de profs, ils sont pas bien payés. Ils ont des classes, voilà. Enfin, bref, c'est un métier quand même difficile, prof. C'est épuisant. Hein. On dit toujours que c'est des feignants, mais c'est quand même pas facile en réalité.
Et les gens qui sont plus difficiles probablement.
Et
quoi.
Je pense, en effet, non, mais... parce que c'était beaucoup plus tranquille il y a 30-40 ans, ouais. À mon avis. Mmh. Donc voilà, donc l'éducation c'est central et aujourd'hui c'est concurrencé effectivement par d'autres choses, par les médias, par même l'espace public où qui devient de plus en plus conflictuel en fait.
Ouais, y compris quand le président de la République utilise des termes comme emmerdé, alors qu'on apprend aux enfants à ne pas dire ce genre de gros mots pendant des années. Et là c'est le président de la République lui-même qui le dit quoi.
Absolument, mais d'ailleurs il joue aussi sur cette parfois sur cette question identitaire. Justement, et ces ministres, que ce soit Monsieur Blanquer, Madame Vidal, avec la polémique qu'il y a eu sur les islamo-gauchistes pour
tomber,
voilà, dans les universités, pour tomber comme ça à bras raccourcis sur les universitaires.
Oui, voilà. Frédéric Vidal, qui était notre invité ce matin à Politique, oui, à 8h15, a redit hein, que d'ailleurs, sur cette phrase, hein, l'islamo-gauchisme, etc., et le wokisme aujourd'hui dans les universités, qu'un mouvement qui existe, bien sûr, qui nous vient quand même des États-Unis, même s'il est parti de France précédemment avec des philosophes il y a une cinquantaine d'années. Elle dit que certains veulent empêcher le débat dans les universités.
Oui,
et ça, c'est-à-dire qu'il y a un clivage. C'est-à-dire que les gens du woke, hein, l'éveil, la parole en fait aux discriminés, aux minorités, eux ne veulent plus parler avec les autres. Quoi. Bah, c'est une identité fermée, ça aussi, en quelque sorte, non?
Bah, le problème, c'est que pour vous répondre, c'est que je pense que Madame Vidal ne connaît pas bien ce dossier-là. Pourquoi ? Parce qu'elle vient des sciences dures et elle ne connaît pas du tout le milieu des sciences sociales, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire la sociologie, la science politique, l'anthropologie, l'histoire sont sur un fonctionnement qui est complètement différent de la biologie, de la physique, etc. Donc il y a une façon de caricaturer comme ça les gens. Il y a effectivement des débordements. C'est d'ailleurs beaucoup plus souvent le fait des parfois des étudiants, mais pas toujours, que des professeurs eux-mêmes.
Il peut y avoir des professeurs qui sont radicaux dans leur pensée. Quoi,
alors, absolument, il y a des formes de radicalisme, mais après tout, en principe, l'université doit permettre la coexistence des opinions différentes. Le problème, c'est de les accuser, c'est aller quand même assez loin, parce que M. Blanquer a accusé les profs, ou une grande partie des profs, d'être complices du terrorisme, quelque part. C'est quand même scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est pas acceptable. Donc, là, il y a vraiment une méconnaissance. Il faut quand même se pencher un peu sur la réalité de ce qu'est le monde universitaire. Il n'y a pas de djihadistes au sein de l'université. Enfin, faut arrêter quand même. Ce sont des gens sérieux.
Non, mais il y a des courants qui peuvent être dangereux, peut-être, non ? S'ils ne sont pas un peu canalisés ou pas. Régis Méran, vous qui êtes à l'université, qui connaissez parfaitement, et puis vous travaillez sur votre plateforme, quoi.
C'est ça. Bah, avec Michel Viviorca, on travaille sur, on réfléchit à ça, mais on n'est pas les seuls, il y en a d'autres. C'est-à-dire que c'est dans le milieu militant, vous avez parfois des réactions un petit peu extrêmes, mais à l'université, moi je crois pas. Alors il y a des conjonctions parfois entre le militantisme et l'université, c'est vrai. Mais bon, il faut arrêter, les universitaires ne sont... Enfin, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils peuvent être... Le problème, c'est que de toute façon, toutes ces disciplines, on ne peut pas être jamais complètement neutre. C'est-à-dire que c'est en rapport avec les questions politiques et de société. Donc vous avez des gens qui ont toutes les opinions. Ouais. Et des fois, ils ne sont pas d'accord.
Ouais. Il y a quelques jours, on a reçu le cofondateur d'un colloque à la Sorbonne, vous savez, la Sorbonne, reconstruire après la déconstruction, qui prônait justement l'ouverture pour discuter entre forcément deux identités ou deux communautés qui s'opposaient, qui a été fait largement polémique. Est-ce que finalement, ce type de colloque est intéressant justement pour ouvrir ce débat ?
Alors vous parlez du colloque contre les wok qui a eu lieu le week-end
dernier. Oui, le week-end dernier, samedi et dimanche.
Ah ben non, ce colloque n'est pas du tout utile au dialogue, parce que c'est une forme de macartisme. Ça a été souligné par je ne sais pas combien d'intellectuels qui ont fait des tribunes, et ils sont très nombreux à le dire.
C'est, et d'autres qui ont dit l'inverse, qui disaient que justement...
Oui, mais ils sont moins nombreux en réalité. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce sont des gens qui font des listes, et qui vont dire telle ou telle personne, il faut faire des sanctions contre eux. Si vous commencez à faire des listes et à dire que c'est la fin, parce qu'il y a eu des mots quand même très très graves dans ce colloque. J'ai suivi les tweets de quelqu'un qui y assistait, qui dit voilà, des personnes disaient ah, c'est la fin de l'humanité, avec les woke, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de l'humanité, mais il faut quand même garder un peu mesure. Il y a peut-être des gens qui sont remontés, qui sont énervés, mais c'est pas la fin de l'humanité. Je veux dire, c'est pas... Ça me semble complètement excessif et dangereux, en fait.
Ouais. Il y a des excès dans les deux cas, quoi, un petit peu, quoi, sur,
oui,
dans ces fameuses obsessions identitaires, quoi.
Alors, effectivement, il y a des excès dans les deux cas. Cela dit, moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'excès du côté de personnes comme dans ce colloque qui sont quand même très conservateurs, ultra conservateurs, et qui en viennent à tellement détester ceux qui voient comme des ennemis qu'ils veulent les interdire. Ils disent qu'on ne les laisse pas parler, etc. Ce qui est en réalité pas vrai. Enfin, il y a quelques cas qui posent problème, comme à Grenoble, à Sciences Po Grenoble, mais c'est très compliqué, donc ça, je ne peux pas développer là. Mais,
ouais. Voilà. Non, mais,
oui, mais on ne peut pas nier que ça existe.
Oui.
C'est-à-dire que ça, il y a toujours eu, en fait, des tensions dans la société, à l'université. Si vous comparez à
mai 68,
c'était bien pire, en fait. C'est là aussi, il faut quand même un peu relativiser. Franchement, il n'y a pas de quoi non plus à mon avis, il y a rien de très grave pour l'instant. On n'est pas, je sais pas, moi, il y a pas de violence extrême. Il y a pas de.
Non, mais parfois la violence de la pensée ne s'exprime pas immédiatement. Et donc ça peut être. C'est souvent de là que viennent en fait les grands conflits.
Ça peut, mais disons qu'il y a une façon de caricaturer les propos des féministes qui sont supposés. Alors moi, on lit comme ça. Par exemple, Rachel Kahn avait écrit dans une tribune. Les féministes, les féministes se réjouissent. Certaines féministes se réjouissent de l'arrivée au pouvoir des talibans. Enfin, c'est délirant. Moi, je la mets au défi, et je vous mets au défi, à quiconque d'ailleurs.
C'était un raccourci, quoi.
Oui, mais c'est un raccourci dangereux, parce que vous imaginez bien que les féministes vont surtout pas défendre les talibans, qui sont les plus anti-féministes.
Non, mais c'est parce que quand il y avait eu les déclarations de Sandrine Rousseau, qui étaient un peu controversées.
Absolument.
C'était à la suite de ça.
Je suis d'accord avec vous. Il y a des fois des gens qui disent des bêtises hallucinantes. Enfin, il ne faut quand même pas non plus exagérer. Quoi.
Bon, merci beaucoup Régis Merran, Les obsessions identitaires aux éditions textuelles, et c'est le débat, et je pense qu'on on y reviendra beaucoup, évidemment, pendant la présidentielle, parce que ça fait partie des thèmes. Comme ça avait déjà été le cas, on se souvient aussi à l'époque de Nicolas Sarkozy, puisqu'il y avait eu un ministère quand même de l'identité, en fait, à l'époque. Allez, dans un instant, des grands problèmes dans la France à vos côtés.
Bien sûr, et surtout un sujet dont on va entendre parler juste pendant les présidentielles, ce sont les déserts médicaux, comment lutter contre ces déserts médicaux. Avec nous, pour en parler dans quelques instants, Jean-Paul Hameau, vous savez, qui est médecin généraliste à Clamart, et puis Rony Guarda-Mozzaleni, qui est maire de Fleurance, qui lui propose des solutions dans le Gers. À tout de suite.